Radio Kapi. Oh, Kapi. À la présentation, Belinda Bossouma.
Cas de violation des droits d'informer et d'être informé répertoriés cette année. Violation attribuée majoritairement aux détenteurs d'un certain pouvoir et qui en abusent, selon Journalistes en danger. JED vient de publier un rapport dans ce sens. Monseigneur Ambongo, confirmé archevêque de Kinshasa par le pape, et remplace ainsi Monseigneur Mosengo, parti en retraite. Pour le député Lokondo, le cardinal Mosengo reste une icône de la RDC vu la manière dont il a accompli sa mission prophétique. Et puis, l'invité de ce matin, Sheherazade Bouabid, conseillère en communication et relations avec les médias Oxfam RDC, elle revient sur la situation chaotique des Congolais expulsés d'Angola, arrivés au Kasaï notamment. Madame, Messieurs, bonjour. D'abord cette information, l'ouverture de la maison Schengen n'est pas envisageable tant que les raisons pour lesquelles elle avait été fermée demeurent. Réponse hier du porte-parole du gouvernement congolais au plaidoyer de l'Organisation de défense des consommateurs ODC. Lambert Mende tenait un point de presse hier à Kinshasa. En effet, dans sa déclaration diffusée hier matin sur nos antennes, Derek Chibangu, président de l'ODC, a recommandé au gouvernement de faire diligence pour autoriser la réouverture de la maison Schengen, car pour lui, cette fermeture porte plus de préjudice aux Congolais, notamment dans les domaines de la prise en charge médicale, de la recherche scientifique ainsi que des échanges culturels. Journalistes et médias sous pression, les élections de tous les dangers, c'est l'intitulé du rapport de l'ONG Journalistes en danger, publié hier en marge de la commémoration aujourd'hui 2 novembre de la Journée internationale de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Dans ce rapport, JED indique qu'au cours de cette année, le climat de travail des journalistes ne s'est guère amélioré et aucune mesure, ni politique ni législative, n'a été prise par les autorités congolaises en faveur de la liberté de l'information. 121 divers cas de violation des droits d'informer et d'être informé ont été répertoriés en 2018, le même nombre de cas recensés l'an passé. JED attribue majoritairement ces atteintes à la liberté de la presse, aux personnes détentrices d'une parcelle de pouvoir public et qui abusent ainsi de leur position en toute illégalité et en toute impunité. Tivis Chivoadi, secrétaire général de JED, est joint par Billy Van Lutumba.
Il faut que chaque fois permettre d'abord que les journalistes puissent être en mesure d'accéder à toutes les sources d'information. Et là, nous déplorons le fait que, à ce jour, le projet de loi d'accès à l'information traîne encore au niveau de l'Assemblée nationale. C'est une loi importante qui aurait pu permettre aux journalistes pendant cette période de contribuer à la transparence des élections. Parce que aujourd'hui, il y a cette question de la transparence, il y a des controverses autour d'un certain nombre de sujets qui concernent notamment le fichier électoral ou cette affaire de la machine à voter. Et donc, le journaliste a aussi la responsabilité de contribuer. Il ne peut le contribuer qu'à partir du moment où il y a des informations. Or, aujourd'hui, on constate qu'il n'y a aucune disposition qui permet aux journalistes d'accéder aux données, aux fichiers de la CENI. Et donc, c'est pour nous un handicap et un obstacle, effectivement, au travail de journalistes. Nous aurions tant voulu que cette loi sur l'accès à l'information soit rapidement promulguée pour permettre aux journalistes de pouvoir faire son travail en toute responsabilité, mais de manière aussi professionnelle.
Nord Kivu, les mouvements pro-démocratie, Lucha, RDC Afrique, Filimbi, ainsi que les associations des artistes de la ville de Goma exigent la vérité sur les circonstances de la mort de l'artiste musicien Hakim Muyeye, qui serait décédé au cachot de la police P2 le week-end dernier. Visiblement, selon la Lucha, l'artiste aurait été torturé. Dans un point de presse tenu hier à Goma, ces organisations demandent l'implication des autorités provinciales pour que les présumés auteurs de cet acte soient immédiatement déférés devant les juridictions compétentes afin d'y être jugés. Gabriel Ouamenia nous raconte.
L'artiste Hakim Muyeye, âgé de 20 ans environ, serait décédé le week-end dernier au cachot de la police de renseignement PD à Goma. Il aurait été accusé d'avoir occasionné un accident de circulation sur un véhicule appartenant à un ressortissant indien. Selon la Lucha RDC Afrique, la victime et deux de ses compagnons auraient été torturés par les policiers quelques heures avant sa mort. Ici, les explications de Josué Walai de la Lucha.
Après avoir été tabassé, chose étonnante, les Ben Hakim et ses compagnons blessés, au lieu d'être acheminés à l'hôpital par la police pour des soins, il a été jeté au cachot où il a rendu l'âme. Suite à ces blessures et tortures qu'il a subies, la Lucha RDC Afrique compte saisir le procureur général de la République pour que justice soit rendue pour le cas d'Hakim.
Les militants de la Lucha RDC Afrique du mouvement Filimbi ainsi que les artistes présents au lieu du deuil, visiblement en colère, sont immédiatement descendus au gouvernorat de province pour y déposer leur mémorandum. Mais aux dernières nouvelles, nous apprenons qu'ils ont été dispersés par la police. Tous nos efforts pour joindre les responsables du bureau PD n'ont pas abouti. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Entre-temps, du côté du Haut-Katanga, le calme est revenu après des accrochages entre la police et des creuseurs artisanaux hier sur l'axe routier Lubumbashi-Likasi à la hauteur du village Kawama. Tout est parti de la descente de la police nationale dans une carrière exploitée par des Chinois et ont tiré plusieurs coups de feu pour disperser les creuseurs qui exploitaient des résidus des minerais. Nelly Kabena, adjoint un habitant de Kawama, victime de cette situation, y témoigne.
Bien, nous, aujourd'hui, il y a eu des troubles entre les creuseurs et les policiers. Et les policiers ont voulu chasser les creuseurs dans la carrière où ils ont l'habitude de travailler. Et puis, c'est pas qu'ils les ont autorisés ou ils sont partis de même temps. Nous ignorons puisque nous n'y allons pas là-bas. Et finalement, les creuseurs ne voulaient pas. Ils jetaient les pierres sur les policiers. Les policiers jetaient des gaz lacrymogènes sur eux. Et puis, finalement, je sais pas, les policiers ont maintenant laissé leur mission pour lesquelles ils sont ici. Ils sont en train dans chaque maison et ils ont cassé des vitres. Il y a eu plusieurs maisons dans notre quartier. Et chez moi, ils ont saccagé la maison, entré même dans ma chambre et prendre l'argent. Ils ont saccagé mon lit et ils ont dérangé toute la maison. On commençait même à arrêter maintenant les innocents. Je suis dans l'amertume vraiment.
Selon d'autres sources, les creuseurs s'insurgeaient contre l'exploitation de leurs terres par des Chinois, les privant ainsi de tout moyen de subsistance, dont l'accès à l'eau de la rivière et leurs champs. La police a lancé des gaz lacrymogènes et y aurait 2 blessés. Information non confirmée par la police. Pour l'heure, un important dispositif policier est déployé à Kawama. Retour au Nord Kivu. 4 jours de grève des opérateurs économiques à Mangoureji, dans le territoire de Lubero. À la base, la dénonciation par les opérateurs économiques des arrestations arbitraires opérées par les services de sécurité, suivies des amendes exorbitantes, indiquent des sources sur place. La Fédération des entreprises du Congo, FEC Mangoureji, conditionne la levée de la grève par le départ du responsable local des renseignements et du commandant T2 de Mangoureji. Le chef de secteur de Bapere confirme l'information et demande au commerçants de lever leur mouvement car selon lui, l'administrateur de Lubero s'investit déjà pour trouver une réponse à cette revendication. Je vous disais en titre, Monseigneur Fridolin Ambongo a été confirmé hier archevêque métropolitain de Kinshasa par le pape François, rappelant que c'est depuis le 6 février dernier que Monseigneur Ambongo a été nommé archevêque coadjuteur de Kinshasa par le pape. L'abbé Donatien Chole, secrétaire général de la CENCO, confirme la nouvelle. Il est joint au téléphone par Richard Kamunga.
Effectivement, son excellence Monseigneur Fridolin Ambongo devient archevêque de Kinshasa. Dans les prochains jours, on fixera la date de la prise de possession canonique.
Que devient son éminence le cardinal Laurent Mosengo Pasinya?
Il devient archevêque émérite, un titre qui lui colle bien. Il est tellement plein de mérites que ça déborde en lui.
Est-ce qu'il va continuer à exercer ses fonctions de CNF auprès du Saint-Père?
Pour le moment, oui, jusqu'à ce que le pape va lui demander d'arrêter à ce jour, oui. Comprenez que c'est quelqu'un qui a beaucoup donné, qui a de l'âge, qui mérite un repos, et nous devons vraiment lui rendre hommage. Il a beaucoup fait, il ne veut pas engager l'archevêché de Kinshasa, mais avec ses sages conseils, il peut encore beaucoup faire pour notre pays et pour notre Église.
À la retraite ou pas, actif ou pas, le cardinal Mosengo restera une icône de la RDC au regard de la manière dont il a accompli sa mission prophétique de pasteur. Ses propos sont du député national Henri Thomas Lokondoyoka. Pour lui, le cardinal Mosengo restera un observateur avisé de la situation que traverse son pays en tant que citoyen. L'élu de Mbandaka qui s'exprimait hier dans un point de presse salue la grandeur et le travail abattu par le cardinal Laurent Mosengo Pasinya. Le député Henri Thomas Lokondoyoka est au micro de Michel Kifindangoy.
Le cardinal Mosengo, à la retraite ou pas, actif ou pas, restera une des icônes de ce pays parce qu'il a marqué l'histoire de notre pays dans l'accomplissement de sa mission prophétique. Il sera un peu comme l'archevêque de Douala au Cameroun, Toumi, qui est à la retraite, mais chaque fois quand il parle, il est écouté parce que Mosengo a démontré qu'il était un homme réfléchi, mesuré, à tout moment, qui lui sera obligé de réagir comme citoyen sur un problème concernant un secteur de la vie nationale, il sera écouté. Il restera pour moi un grand esprit chrétien. C'est pour lui maintenant le temps de se reposer, d'avoir une observation engagée davantage sur tout ce qui se fait dans notre pays, comme il a eu accidentellement à accomplir aussi des fonctions politiques comme président de l'Assemblée nationale. Donc il y aura toujours des lumières à jeter pour que nous puissions suivre le bon chemin.
L'invité.
Comme annoncé, notre invitée ce matin est Madame Sheherazade Bouabid, conseillère en communication et relations avec les médias à Oxfam RDC. Elle revient ici sur la situation chaotique que traversent les Congolais expulsés d'Angola. Sheherazade Bouabid s'entretient avec Jean-Pierre Elali Coco.
Madame Sheherazade Bouabid, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous rentrez d'une mission au Kasaï où vivent actuellement plus de 257 000 Congolais expulsés d'Angola. Quelle est, madame, la situation actuelle sur le terrain?
Actuellement au Kasaï, avec cette arrivée massive de Congolais expulsés de l'Angola, ce qu'on voit, c'est des personnes qui nous racontent les conditions d'extrême violence dans lesquelles ils ont été expulsés du pays, et puis les difficultés énormes qu'ils rencontrent dès qu'ils arrivent au Kasaï, puisque, comme vous savez, le Kasaï est une région qui connaît un taux énorme de malnutrition, où les structures ont été fragilisées depuis les conflits de 2016 et les tensions continuent d'exister aussi au sein de la région. Donc cet afflux massif de personnes pose plusieurs problématiques actuellement.
Parlez-nous un tout petit peu des conditions humanitaires dans lesquelles se trouvent ces expulsés de l'Angola.
Ce que les gens nous reportent, c'est que déjà, ils n'ont pas de quoi souvent payer le transport pour aller chez eux. Ils arrivent à la frontière, ensuite ils doivent aller dans les grandes villes, à Chicapac, à Monia. Pour ça, pour payer les transports, ils vendent beaucoup de leurs affaires. Ils ont de la difficulté à trouver de la nourriture, à trouver de l'eau à boire. Certains tombent malades et ne savent pas comment se soigner.
Et vous craignez également la résurgence des conflits intercommunautaires au Kasaï avec l'afflux de ces personnes retournées d'Angola. Comment vous justifiez votre crainte?
Comme vous savez, les conflits qui se sont passés en 2016, c'est très récent. Donc encore, la population est extrêmement vulnérable. On a plus de 2 millions de personnes qui sont atteintes de malnutrition. Donc c'est des personnes qui ont du mal à se nourrir chaque jour. Maintenant, ils accueillent leur famille. J'ai rencontré des personnes qui accueillent plus de 30 expulsés chez eux, mais qui ont dans leur maison déjà des enfants mal nourris. Donc les difficultés sont énormes. Donc c'est sûr que cette situation de pauvreté peut raviver des tensions qui existent encore. Il nous a été reporté que dans certaines zones, il existait déjà des tensions. Il y a aussi des communautés qui reviennent et cherchent à retrouver leurs terres. Et toutes ces raisons-là pourraient amener à une résurgence des conflits si on n'intervient pas rapidement pour soutenir les familles qui accueillent et les personnes qui viennent d'arriver dans le Kasaï et en RDC.
Face à cette situation d'urgence humanitaire, quel est l'apport de Oxfam sur le terrain?
Oxfam est présent déjà dans la région depuis les conflits de 2016. Ce qu'on fait aujourd'hui avec cette nouvelle crise, c'est qu'on adapte notre réponse. Donc on identifie les ménages les plus vulnérables et nous faisons la distribution d'argent. Donc c'est à environ $75 par ménage, ce qui permettra de pouvoir payer pour de la nourriture, l'eau, le transport éventuellement, en tout cas ce qui les aidera à pouvoir se réinsérer dans leur nouvelle ville en RDC et ce qui pourra peut-être aussi sauver quelques vies. Donc aujourd'hui, Oxfam souhaite pouvoir rejoindre au moins 50 000 personnes avec cette distribution d'argent auprès des communautés et des ménages les plus vulnérables.
Oui, $75 par ménage, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous avez pensé aussi aux familles d'accueil qui accueillent bien entendu plus de 30 personnes expulsées d'Angola?
Tout à fait. Nous souhaitons poursuivre notre soutien à ces familles d'accueil, déjà à travers nos programmes programme, nous en soutenons un certain nombre. Actuellement, nous n'avons pas les fonds nécessaires, mais nous recherchons les fonds pour pouvoir aussi soutenir plus de familles, notamment avec la distribution aussi de semences, aussi qu'on puisse encourager l'agriculture, et puis avec des travaux d'assainissement de l'eau, qui sont aussi très importants à mettre en place dans la région.
Madame Sherazade Wahbib, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Voilà, c'était notre invitée de ce matin, la conseillère en communication et relations avec les médias à Oxfam RDC. Elle s'entretenait avec Jean-Pierre Elali sur la situation chaotique que traversent les Congolais expulsés d'Angola. C'est par ici que s'achève ce journal supervisé par Pele Kipela Mondo, la mise en onde de Alain Goy. Merci et très bonne suite des programmes sur Radio Capi.